Bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une critique d'art féministe des années 70 à propos d'un catalogue qui va sortir en son honneur qui s'appelle Des femmes dans l'art, hommage à Aline Dallier. Elle se nomme donc Aline Dallier. Et nous sommes cinq dans le studio. Il y a Arnaud Lefebvre, directeur de la galerie Arnaud Lefebvre, 6 rue des Beaux-Arts à Paris. Diana Kimby, artiste et historienne d'art, commissaire de l'exposition. Anouk Chambard, doctorante en histoire de l'art contemporain à l'Université de Paris 1. Et Thérèse Amp Jonas, artiste plasticienne et performeuse. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour
Arnaud. Alors je vous laisse présenter la galerie et le choix de faire cette exposition d'hommage.
Alors comme vous le disiez, donc c'est consacré à Aline Dallier. Alors il s'agit à la fois d'un catalogue, mais surtout d'une sorte d'entreprise qui a été démarrée. Il y a une bonne année maintenant, avec donc le commissariat de Diana Quimby, assisté par Anouk Chambard, et donc Thérèse Amjonas, qui est également ici, fait partie des artistes qui sont exposés et qui a connu Aline Dallier. Cette exposition catalogue est arrivée petit à petit, si l'on peut dire, dans l'histoire de la galerie, où... à travers la recherche que j'avais faite pour présenter le travail de l'artiste Essie, qui est une artiste qui travaille essentiellement avec de la broderie. Je me suis intéressé d'une façon plus théorique, disons, sur les mouvements, les écrits qui présentaient les artistes femmes et le travail féministe qui avait été fait en matière d'histoire de l'art dans les années 70. Et donc, je suis un peu inévitablement tombé sur un nom que je connaissais pas vraiment, qui est donc le nom d'Aline Dallier. Et j'ai découvert dans ses écrits, enfin, une clarté de présentation et puis un véritable intérêt qui emmène dans son, comment appeler ça, dans son sujet, dans son expérience, dans son aventure. Ça a été, disons, un point qui a participé à la découverte à l'époque de l'œuvre de Essie. Et puis, disons que son nom, on le croise inévitablement après quand on s'intéresse un petit peu plus au courant des artistes, des artistes femmes, en tout cas, de cette période. Et la proposition avec Diana Quimby est arrivée il y a donc à peu près peut-être une année. Pourquoi ne pas faire quelque chose? Enfin, la proposition est arrivée aussi parce qu'il y a cet événement qui est lié à la biographie d'Aline Dallier, où elle est décédée en 2020. Et donc, moi, j'ai découvert en réalité son décès dans une exposition à travers des écrits d'un texte qui parlait de la situation des artistes femmes de Dorothée Sells. Et donc, j'ai vu qu'Aline Dallier était morte. Je me suis dit, mais enfin, c'est quand même incroyable. Il faut que j'apprenne ça comme ça, on n'en a pas parlé. Il y avait vraiment une sorte d'un choc et puis un manque, un trou. Et donc Diana Quimby m'a proposé après de faire quelque chose avec Aline Dallier. Et c'est, bon, d'une certaine façon, c'est une espèce de courant souterrain qui s'est dit, c'est le moment ou jamais, allons-y. Et voilà. Voilà où nous en sommes maintenant.
Alors, Diana, vous voulez peut-être nous présenter Aline Dallier.
Oui, je vais peut-être faire une petite esquisse biographique d'Aline Dallier. Donc, qui était-elle? D'abord, C'était une personne discrète, très attentionnée aux autres, et passionnée d'art et du travail intellectuel. Elle était liée d'amitié avec de nombreux artistes sur lesquels elle avait écrit. Et donc, pour certaines d'entre elles, elle suivait leur travail tout au long de sa vie. Et donc, dans l'exposition que nous avons montée, c'est surtout des artistes sur lesquels elle avait écrit et avec qui elle était amie. Donc, rien ne prédispose Aline Dallier à devenir historienne et critique d'art. Elle est née en 1927 à Paris, dans un milieu plutôt modeste. Elle fait des études secondaires. Elle suit une formation musicale pour devenir chanteuse lyrique. Mais elle avait surtout envie de quitter sa famille et d'avoir une vie indépendante. Donc, elle trouve un emploi chez Reader's Digest. Donc, elle connaissait bien l'anglais. Et en fait, c'est une rencontre tout à fait fortuite en 1954 avec Pierre Restany, donc qui est alors jeune critique d'art, qui fait basculer sa vie dans le milieu artistique. Donc, pour les auditeurs qui ne connaissent pas Pierre Restany, c'est lui qui a théorisé le nouveau réalisme avec Yves Klein, Armand, Jean Tinguely, César et d'autres artistes. Et donc, c'est avec Restany, donc qu'elle épouse en 1955, que Aline va découvrir l'art moderne et contemporain. Et elle va se lier d'amitié avec certains artistes dans l'entourage de Restany, donc notamment Yves Klein. Et elle va également se familiariser avec l'écriture sur l'art, car elle va taper à la machine, sur son lieu de travail, les manuscrits, les textes manuscrits de Restany. Voilà, donc Aline Dallier et Pierre Restany restent ensemble jusqu'en 1960. Ils divorcent et Aline fait la rencontre d'un autre jeune historien d'art, Frank Popper, qui devient son compagnon et plus tard son mari. Et Frank Popper, dans les années 60, rédige sa thèse à la Sorbonne, donc il devient spécialiste de l'art cinétique. Et en 1969, il est l'un des fondateurs du département des arts plastiques à l'Université expérimentale de Vincennes. Donc, qui deviendra Paris 8 Vincennes et après Paris 8 à Saint-Denis. Donc, en 1970, parce que l'Université expérimentale accepte les étudiants sans limite d'âge, Aline, donc, qui a alors 43 ans, reprend des études. Et donc, il faut rappeler que cette université est née des bouleversements sociaux, donc de mai 68, et aussi des mouvements féministes qui vont se développer tout au long des années 70. Alors, donc, Aline, donc, qui jusque-là avait un second rôle derrière les hommes de sa vie, elle va devenir elle-même une historienne et une intellectuelle. Et donc, elle dit que les mouvements féministes du début des années 70 ont été comme une révélation, et sans doute lui ont donné le courage de s'engager dans un très long parcours universitaire et aussi le courage de s'engager dans un processus de questionnement sur elle-même et sur ses choix de vie. Donc, elle découvre à l'université donc, une véritable passion pour les études. Elle étudie la sociologie, l'histoire des femmes et du féminisme. Elle étudie l'esthétique et l'histoire de l'art. Et à cette époque, elle fait aussi une rencontre qui sera déterminante avec l'artiste conceptuel et pluridisciplinaire Tania Moreau. Et les deux femmes deviennent des amies proches. Et Aline est impressionnée par Tania, qu'elle décrit comme une femme audacieuse et indépendante. Et Aline dit que c'est Tania qui l'a incitée à s'intéresser aux artistes femmes parce qu'à l'époque, donc fin des années 60, début des années 70, personne n'écrivait sur les œuvres de femmes. Donc l'intérêt d'Aline pour les artistes femmes va réellement se concrétiser en 1973 lors d'une visite à New York où elle découvre par hasard la galerie AIR, donc Artist in Residence, donc à Soho. Et c'est une galerie qui a été créée par un collectif d'artistes femmes pour exposer les œuvres de femmes, et c'est une galerie qui existe toujours. Donc Aline voit avec ses propres yeux qu'à New York, il existe un mouvement féministe dans l'art qui se développe parallèlement au mouvement féministe plus large dans le pays. Et donc ces mouvements féministes dans l'art ont été initiés pour combattre la discrimination sexuelle dans les milieux de la culture et aussi pour donner une visibilité aux œuvres d'artistes femmes. Donc, elle a tout de suite noué des contacts avec plusieurs artistes de cette galerie AIR et elle est rentrée en France avec une documentation considérable sur les artistes qui constitue le début de ses recherches. Et donc, elle va rédiger un mémoire de maîtrise pour l'Université de Vincennes sur l'incidence des mouvements féministes sur l'art des femmes aux États-Unis. Et elle va commencer à s'intéresser tout particulièrement à l'art textile parce qu'elle constate que de nombreuses femmes, y compris certaines qu'elle avait rencontrées à New York, se servent de techniques textiles traditionnelles, donc la couture, la broderie, le tricotage, le tissage, pour réaliser des œuvres. Donc là, on peut écouter la voix d'Aline Dallier. Donc elle parle de ce choix d'étudier l'art textile.
On va écouter alors.
Et sa date, c'est un enregistrement de 2009.
D'accord.
Alors, si j'ai choisi l'art textile, c'est parce qu'il était à ce moment-là le plus nombreux, c'est pas le mot, mais le plus abondant. C'est ça. C'est qu'une majorité d'artistes femmes, américaines et européennes, travaillaient déjà là-dessus. Il y en avait déjà une majorité, peut-être, mais enfin, il y avait déjà un grand nombre d'artistes à travailler sur ce matériau textile. En plus, alors quelque chose de très important, c'est que j'avais donc une formation sociologique, et histoire de l'art, mais sociologie également, sociologie de l'art, sociologie de la culture. En plus, il m'est apparu que la couture et les travaux sur textile, ça n'avait évidemment rien à voir avec du biologique, mais avec une expérience socio-historique des femmes sur le matériau textile, qui ont été par tradition, je ne dis pas que ça doit continuer, d'ailleurs ça ne continue pas, d'ailleurs pour ainsi dire, c'est pour ainsi dire terminé.
Il y a toujours des femmes qui travaillent avec des sacs textiles, mais pas plus que...
C'est pour ainsi dire terminé, le textile art c'est terminé. Mais à l'époque, c'était quand même une recherche de culture de femmes, entendons-nous, culture historique, pas culture à venir. Hein. Et que, en plus, c'était un moyen. Ce qu'on retrouvait dans ce travail d'art, c'était une problématique de type purement sociologique qui est la division, un concept même, qui est la division du travail entre les hommes et les femmes. On la retrouvait là, imagée dans l'art et problématisée aussi dans l'art. Je veux dire qu'on pouvait en faire, que les artistes pouvaient en faire ce qu'elles voulaient, c'est-à-dire de la critique, critiquer cette expérience des femmes sur le matériau textile, le matériau, en somme, travail domestique par excellence, travail justement issu de la division du travail, qui n'est pas une qualité en soi. Hein. Et elles pouvaient aussi en regarder les aspects positifs, car il y a aussi des aspects positifs, y compris dans, dans le travail domestique. On peut en tirer aussi une poétique, si on veut. Tout ce qui m'a intéressé beaucoup là-dedans, c'est que c'était une notion sociologique, la division du travail, qui se trouvait problématisée et imagée par des artistes. On la voyait dans l'art. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et je le trouve toujours intéressant. Oui.
Allegre FM.
Vous écoutez Allegre FM.
Alors voilà, donc c'était Aline Dallier qui parlait de son choix d'étudier l'art textile. Donc il est vrai que dans les années, c'était un entretien que j'avais fait avec elle en 2009. Donc il est vrai que dans les années 60 et 70, il y avait un intérêt grandissant chez les artistes hommes aussi pour l'emploi de ces matériaux souples. Notamment dans le domaine de la sculpture, mais pour Aline, comme elle disait, le détournement de ces techniques par les femmes pour produire des œuvres d'art était un moyen d'affirmer leur statut à la fois d'artiste et de femme et de revendiquer, enfin de valoriser leur expérience personnelle. Voilà, donc tout au long des années 70, Aline va développer sa réflexion, notamment sur les pratiques textiles des plasticiennes. Elle va publier de nombreux articles, elle va organiser des expositions, elle va créer des liens et des échanges entre des artistes américaines et françaises en organisant des expositions à Paris et à New York. Elle va soutenir les activités de collectifs d'artistes femmes donc qui se créent à Paris dans les années 70 et dont on parlera un petit peu plus tard. et elle va rédiger sa thèse de doctorat sur l'art textile, qui sera soutenue donc à Paris 8 en 1980. Et donc sa thèse s'intitule « Activité et réalisation des femmes dans l'art contemporain ». Un premier exemple, les œuvres dérivées des techniques textiles traditionnelles. Donc, pour sa thèse, Aline Dallier a été bien obligée de cadrer et de limiter sa recherche, mais elle portait toujours un regard ouvert et éclairé sur la très grande diversité de pratiques. Et dans ses articles, elle écrit sur tout, donc peinture, dessin, sculpture, installation, photographie, performance, vidéo, film. Et elle avait même constaté que les artistes femmes des années 70 et 80 avaient largement contribué, comme elle dit, à faire éclater les chapelles et les courants d'avant-garde au profit de la liberté et de la multiplication des formes d'expression. Donc, curieusement, elle disait qu'elle n'était pas une défenseur d'artistes femmes, que les artistes elles-mêmes se défendent déjà très bien et que son travail en tant qu'historienne et critique consistait à montrer comment les œuvres de femmes s'insèrent dans l'histoire de l'art contemporain. Donc, on peut écouter un deuxième extrait où elle se dit qu'elle n'est pas défenseur.
Et pourquoi est-ce que vous dites en fait que vous n'êtes pas défenseur des artistes femmes?
Non, pas au sens étroit du terme. D'accord. Pas au sens étroit du terme. Je travaille sur les œuvres des artistes femmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'elles font, pourquoi elles le font, comment elles le font, avec quels enjeux et de quelle manière et avec quels résultats. En l'occurrence, j'ai travaillé même encore plus sur quelles sont les incidences du féminisme mouvement et du féminisme doctrine sur l'art de certaines femmes, pas de toutes.
C'est le travail que vous avez fait.
Mais le défenseur, ça voudrait dire que je cours partout pour les amener dans les galeries. Moi, je ne fais pas ça.
Oui,
je ne suis pas un agent de publicité.
Mais vous l'avez beaucoup soutenu.
Ah, soutenu, c'est une autre chose que défenseur. Je ne crie pas partout qu'il faut engager une telle ou une telle, c'est ça que je veux dire. Hein.
Et tous vos articles, et puis après votre thèse.
C'est en général la question des critiques d'art, c'est pas seulement moi.
Oui.
Est-ce que les critiques d'art sont des défenseurs des artistes? Je crois que c'est une mauvaise conception de cette fonction. Les critiques d'art ne sont pas des défenseurs des artistes.
Alors, donc, malgré ce que dit Aline, de très nombreux artistes, y compris celles qui figurent dans l'exposition en son hommage, donc à la Galerie Alain Lefebvre, diraient que Aline les a bien défendues ou les a soutenues. Donc, avant d'écrire ses textes, elle faisait des visites d'ateliers et elle constituait une documentation considérable sur les œuvres. Elle nouait des relations amicales avec les artistes et elle entretenait une correspondance avec plusieurs d'entre elles. Donc, on verra tout à l'heure avec Thérèse Ambjonas. Donc, dans ses textes, donc Aline, elle décrit des œuvres avec précision et elle propose des analyses approfondies dans un langage clair et accessible. Donc c'est vraiment une écriture qui est très lisible, qui est agréable à lire. Donc à partir de 1980, elle devient enseignante elle-même, donc en histoire de l'art, à l'Université de Paris 8, donc d'abord à Vincennes et ensuite à Saint-Denis. Et elle sera maîtresse de conférences jusqu'en 1992. Elle avait même donné un cours sur les femmes dans l'histoire de l'art. Mais au milieu des années 1980, elle cesse d'écrire exclusivement sur les femmes pour s'intéresser aux artistes hommes et aussi à l'art brut et à la psychanalyse. Donc même si c'est quelqu'un qui est toujours resté discrète en tant qu'historienne, elle continue à publier des articles jusqu'à un âge très avancé. Donc le dernier article qu'elle a publié était en 2018, à l'âge de 90 ans. Alors sa thèse n'a jamais été publiée, mais en 2009, elle publie chez L'Harmattan un recueil de ses écrits, donc qui s'intitule « Art, féminisme, post-féminisme ». Un parcours de critique d'art. Et donc, comme Arlon Lefebvre l'a dit, elle est décédée en février 2020 et son mari, Franck Popper, donc son mari de plus de 50 ans, est décédé quelques mois plus tard à l'âge de 102 ans. Voilà, donc je passe la parole à Anouk Chambard.
Ouais. À toi, Anouk.
À moi, bonjour. Je pense que c'est bien d'envisager le travail d'Aline Dali un peu dans son contexte. Donc Diana a commencé à en parler, le contexte du féminisme en art et puis plus largement des mobilisations sociales qui ont suivi 1968. En effet, la scène artistique à Paris, féministe en tout cas, elle s'est organisée autour de petits cercles de femmes. Ces cercles ont pu prendre la forme de groupes de plasticiennes qui ont travaillé en commun ou qui organisaient des événements. Ça a pu être également des revues féministes ou des espaces communautaires, par exemple des espaces d'exposition. Et donc tous ces différents cercles, ils ont constitué une sorte de réseau parallèle au réseau de l'art officiel où les artistes femmes avaient du mal à se faire une place. Donc tout ça, ça a constitué une sorte de maillage, de réseau au sein de la scène féministe en art à Paris, puisque c'était on pourrait appeler ça un microcosme féministe de groupes de femmes qui pouvaient leur servir de point de communication, de rencontre ou d'action, au sein de la scène artistique. Pour donner quelques exemples, par exemple notamment de revues, on peut parler de la revue Sorcière qui existait entre 1975 et 1982, qui était donc une publication dirigée par Xavier Gauthier et Anne Rivière. C'était une revue littéraire, féministe et artistique. Il y a de nombreuses plasticiennes qui ont participé à la création des numéros, donc notamment avec des textes ou avec des images, des œuvres qui étaient reproduites dans la revue. Il y a eu un certain nombre de groupes de plasticiennes. Par groupe de plasticiennes, on entend vraiment un ensemble de femmes qui se retrouvaient soit pour échanger, pour débattre, pour faire des lectures diverses, pour partager également des moments de création, pour organiser des manifestations, etc. Donc parmi eux, il y a notamment le groupe FAMAR, qui a été créé en 1976 et qui a existé jusqu'en 1980, qui a été créé par Françoise Elliette, qui était psychanalyste et peintre, en collaboration avec d'autres femmes. Le groupe Femini Dialogue est important également. Il existait entre 1975 et 2009. Donc c'est un des groupes qui a été le plus important numériquement de la décennie, mais aussi qui a connu la durée de vie, entre guillemets, la plus longue. Ce groupe, il a été créé par Christiane de Casteras, qui était peintre, plasticienne, et qui était précédemment présidente de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, qui était le plus ancien groupe d'artistes femmes qui avait été créé en 1881. On peut citer également le groupe Femmes en lutte, dont je parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, à la place de Dorothée Sels, qui est donc une autre artiste présente à l'exposition, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc le groupe Femmes en lutte, il existait entre 1975 et 1977, et donc Dorothée Sels, elle était une des membres fondatrices. Enfin, pour terminer, il y avait aussi des lieux, et donc par exemple, on peut citer la galerie Librairie, qui avait été créée par l'association des femmes, ou le lieu dit, un espace d'exposition, un café, un espace de rencontre et de débat également, créé par l'écrivaine Yolène Sima à côté de la Sorbonne à la fin des années 70. Donc tous ces ensembles, ces cercles et ces groupes, ils ont mené des actions concrètes, même si elles sont restées assez discrètes pour la plupart. Donc par exemple, le groupe Femini Dialogue dont j'ai parlé a organisé pendant plusieurs années un salon qui faisait part belle aux plasticiennes. Le groupe Femmes en lutte, il a également organisé une participation / protestation à l'occasion du Salon de la Jeune Peinture 1975, donc je parlerai de ça un petit peu plus tard. Voilà, des publications, des revues, des expositions, etc. Voilà, des initiatives concrètes afin d'améliorer la visibilité des artistes femmes, de leur offrir des espaces d'expression, d'exposition, de rencontres, etc. Aline Dallier, au sein de ce contexte, elle n'a pas participé directement à ces groupes, comme elle le dit elle-même. Elle utilise le terme de témoin engagé dans l'entretien qu'elle a fait avec Diana Quinby en 2009. Par contre, Aline Dallier a œuvré à donner plus d'écho à toutes ces initiatives et aux pratiques dont les groupes faisaient état. Elle a notamment relayé leur existence dans des articles. Par exemple, elle est l'auteur d'un article paru dans Art Press en 1978 qui s'appelle « Le mouvement des femmes dans l'art » où elle mentionne et elle décrit tous les groupes de plasticiennes qui existaient. Elle était liée également personnellement avec un certain nombre des participants, des artistes qui étaient membres de ces groupes. Donc par exemple, Christiane de Casteras, François Janicot, Léa Lublin, Milvia Maglione, Christina Martinez, Nilia Terre, entre autres. Donc son rôle au sein de cette scène était réellement central, puisqu'elle était très intégrée, qu'elle connaissait la plupart des artistes qui y évoluaient, qu'elle visitait très régulièrement les expositions ou autres initiatives qui étaient organisées par les plasticiennes, qu'elle faisait état de leurs pratiques, qu'elle les diffusait, qu'elle diffusait auprès du grand public. Et donc elle a eu un rôle important puisqu'elle a aussi apporté un regard théorique à leur travail. Voilà. Donc on peut citer également, en parlant d'histoire de historienne de l'art, les travaux de Fabienne Dumont et de Diana Quimby, qui sont donc deux historiennes de l'art, qui ont chacune rédigé une thèse qui portait sur cette période. Fabienne Dumont, elle a réalisé une étude relativement transversale de toute cette scène-là, tandis que Diana Quimby, elle s'est attachée à documenter spécifiquement le groupe FAMAR. Et leurs thèses ont été soutenues en 2004 et 2003. Voilà.
Merci.
Bon, si je prends la parole, donc je m'appelle Thérèse Amjonas, bonjour, je suis artiste, plasticienne et performeuse. Si j'évoque Aline Dallier, je l'ai rencontrée dans la période de 77, même un peu avant, au moment du salon Féminine Dialogue, puisqu'Aline Dallier avait rassemblé un groupe d'artistes et écrit un texte, ce texte fondateur pour le catalogue de l'exposition Couture-Peinture. Aline Dallier s'intéressait à ces courants de recherche textile et périphérique au textile, on peut dire. Elle avait demandé aux artistes qu'elle avait repéré des écrits sur leurs travaux en cours. Aline Dallier en avait besoin d'ailleurs pour parler de nous, de parler d'elle le mieux possible, ne pas nous trahir dans des conférences où elle était invitée, puisqu'elle était invitée à parler à des groupes de jeunes dans des conférences qui étaient organisées aux Beaux-Arts en France et dans des Beaux-Arts de France et notamment aussi dans des écoles étrangères. Je peux dire aussi qu'elle insistait pour obtenir les éléments de chacune car elle voulait pouvoir exprimer au mieux nos travaux respectifs, favoriser notre visibilité si fragile à ce moment et montrer la valeur de notre travail d'artiste femme. Elle nous faisait retour par écrit le plus souvent et on se sentait soutenu par elle. On sentait aussi nos propres ramifications qui pouvaient se développer, se connecter entre nous. Ça nous a vraiment aidés, ça je tenais absolument à le dire, et Aline Dallier était comme une sorte de pivot. Concernant ma participation à un collectif du collectif Femmes Arts, initié par Françoise Elliette, c'est Françoise Janicot que je connaissais depuis l'exposition Grande Femme Petit Format qui avait été montée par Iris Claire en 1974, qui m'invita à venir à l'une des réunions prévues chez elle, dans son atelier. Je la cite. « Tu apportes ton book, des photos, tu expliques ton travail sur le blanc. » C'est vrai que je travaillais beaucoup le blanc depuis un moment. Dès la première réunion, je me suis sentie à ma place et les liens se sont noués. J'ai découvert des démarches particulières. Je me suis sentie surtout entourée et plus forte. J'ai pris connaissance que j'étais en capacité de créer comme je le souhaitais. En 1983, comme le disait il y a quelques instants Anouk, j'ai pu participer par exemple au lieu dit, dans ce lieu alternatif qui était bien investi par le collectif de Françoise Elliette. Et j'ai donc pu exposer le thème de l'exposition, je vais noter ça, « Une chambre à soi » en référence à Virginia Woolf. J'ai pu présenter un travail de performance sous forme d'une photo que j'avais réalisée, une photo que j'avais réalisée chez Gidio Alvaro, qui était un initiateur de performance. Ce que je voudrais aussi ajouter, et je lis dans le bulletin numéro 1 de Femmes Arts, du printemps 77, une petite note qui me paraît tout à fait appropriée. Pour sortir de la routine, il faut que chacune apprenne à retrouver le fil de son désir, découvre son propre mode de jouissance, en fasse l'apprentissage. Ce n'est pas ce prix-là que nous éviterons. C'est par ce prix-là que nous éviterons de retomber dans les pièges du sens unique. Aussi, pour nous, le clivage photographie, peinture-peinture, vidéo-art, art sociologique ne peut exister. C'est là typiquement un cloisonnement de type bourgeois, entre parenthèses. Chacune a sa place et tout ira pour le mieux, fermez la parenthèse. Non pas qu'il faille gommer, effacer les différences. Il faut au contraire apprendre à les construire, à les élaborer. Signé Printemps 77, bulletin numéro 2 de Femmes Art.
Merci.
Alors, Thérèse Ambjonas vient d'évoquer une des initiatives un peu concrètes qui a été mise en place par des groupes de femmes. Je peux peut-être enchaîner sur un texte donc de Dorothée Sells, qui n'a pas pu être présente avec nous ce matin, qui présente une action collective organisée donc par le groupe Femmes en lutte au Salon de la Jeune Peinture, qui était un salon d'art contemporain assez important à Paris à cette période-là. Le groupe Femmes en lutte avait organisé une participation collective qui est décrite un petit peu plus en détail dans le texte que je vais vous lire. En 1975, notre groupe Femmes en lutte était composé de femmes artistes qui avaient toutes une trentaine d'années. Claude Antonini, Claude Boréala, Charlotte Calmis, Isabelle Champion-Métadier, Pascaline Cuvelier, Florence Julien, Kiki, Irène Laxine, Milva Maglione, Marie-Annick Maupudugain, Nicole Métayer, Françoise Noël, Raphaël Pia et, non citée dans le catalogue de ce salon, Essie, dont Arnaud Lefebvre a parlé tout à l'heure, Nelly Alter, Mathilde Ferrer. Artistes certainement, mais dans quel contexte ? Je souhaite ici évoquer surtout l'état d'esprit d'une époque. Par notre pratique, nous nous connaissions déjà et nous étions liés par nos engagements dans diverses causes féministes. Vers 1973, nous commencions à nous réunir dans nos domiciles ou ateliers. Il y eut des rencontres fructueuses pour débattre de nos idées, de nos revendications et tenter de nous faire entendre dans le domaine culturel. Choisir d'être peintre ou sculpteur était déjà un engagement en soi. Peu de femmes faisaient des études supérieures, se lançaient dans une profession. Une minorité choisissait le domaine créatif. 1975 n'est pas si loin, mais c'était une autre époque. 1975 avait été déclarée Année internationale de la femme par l'ONU. Nous contestions le contenu ambigu d'un texte publié alors par l'UNESCO. Nos réunions ont permis d'exprimer notre rage et indignation face à mille aspects aliénants du rôle de la femme dans la société. Nous avons décidé de travailler sur un sujet à la fois visuel et sociologique, l'image de la femme dans la publicité. Nous avons pris au piège de leur idiotie les slogans et photos publicitaires. Avec un esprit pop art, nous avons kidnappé et mis en évidence l'absurdité du rôle que nous étions censés avoir et jouer. Les affiches de la rue, du métro, ces visuels perturbants, étaient présents en permanence. Ainsi, tout le matériel d'étude était là, sous nos yeux. Quelques exemples de slogans. Maintenant, les hommes vont aimer les femmes qui font la vaisselle. Dieu créa la femme et X l'habille. Bref, le corps, le sexe de la femme étaient et sont constamment au service de tout type de consommation. C'était violent. Ce qui était innovant, même dans ce salon de la jeune peinture, c'est qu'armé d'un simple appareil de photos et de textes, nous avions fait comme un copier-coller géant. Transposé de la rue à une salle d'exposition, de grands agrandissements de cette publicité stupide. L'idiotie semblait d'autant plus évidente qu'elle était sortie de son contexte urbain. Je connaissais le salon de la jeune peinture, les positions politiques des artistes étaient plutôt de gauche ou d'extrême gauche. Mais au comité, il n'y avait pas de femmes. J'ai demandé à en faire partie. En 1975, Yvan Messac était dans ce comité depuis un an. Une fois intégré, j'ai présenté notre groupe Femmes en lutte. Nous avions préféré dénoncer la condition de la femme dans le social plutôt que d'exposer nos propres œuvres. Notre œuvre fut donc cette action collective. Nous pensions plus pertinent d'exposer nos idées, nos cris. Ainsi, nos réunions des mois précédents, la démarche même du processus de réalisation, photographier dans la rue la misogynie de la publicité, tout cet ensemble a marqué une étape de réflexion, une urgence de dénonciation, un bond en avant en tant que femme peintre engagée. Nous avions osé montrer ce qui nous poussait à essayer d'être autrement que la norme imposée. Dans ce sens, mes idées n'ont pas changé, nous n'avons pas changé. Notre démarche avait été bien accueillie par le public. Pourtant, seule une femme critique d'art, la talentueuse Aline Dallier, avait alors publié un article sur notre groupe dans le magazine Opus International. Plus tard, début 1980, nous avons rencontré avec bonheur Lucie Lippard, historienne de l'art, figure majeure de l'art contemporain et grande défenseuse des artistes femmes. Notre groupe s'est dissous peu après, dans les années 1980. Nous gardons encore des liens amicaux. Dorothée Sells, Paris, août 2020.
Je crois que juste quelque chose qu'on devrait préciser, c'est que malgré toute l'énergie, les activités, l'implication des femmes pour améliorer la visibilité des autres femmes dans le milieu de l'art dans les années 70, c'était toujours très, très difficile. Rappelons qu'aucune institution ne voulait montrer, enfin, monter une exposition d'œuvres d'artistes femmes. Donc Aline Dallier a été obligée de se battre. Elle est vraiment pionnière, elle est absolument la seule d'avoir travaillé, écrit sur les femmes dans les années 70. Et je pense, avant de poursuivre, enfin, je pense qu'il serait intéressant d'écouter un dernier extrait de l'entretien avec elle.
D'accord.
Donc ça revient un peu au problème, la différence féminisme.
Ça revient
au problème ici.
Il a toujours posé un problème. Même il y a des gens qui n'ont même pas prononcé le mot.
Oui.
Le mot est même gênant, certaines fois. C'est vrai. Enfin, peut-être plus maintenant et encore. Même maintenant.
Oui,
Et puis personne s'y intéressait. On avait beaucoup de mépris pour le féminisme action, le féminisme mouvement. Ça n'intéressait personne, hein, je vous dis franchement.
Oui, donc vous avez longuement analysé ces différences dans vos textes. Est-ce que, donc, juste pendant l'entretien, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu pourquoi?
Pourquoi quoi?
Pourquoi on a autant de marre d'être le féminisme ici?
Ah, ben d'abord, c'est un pays latin. Hein? C'est pas la même chose que les anglo-saxons ou que l'Amérique, où depuis beaucoup plus longtemps, il existe des femmes actives, professionnalisées. Et puis, dans un pays latin, vous avez tout le temps la tradition de la courtoisie, de la galanterie, à laquelle tradition tout le monde tient, y compris encore certaines femmes. Et que j'ai un article là-dedans sur le féminisme en France que j'ai fait pour le musée du Canada.
Canada, oui.
En France, il n'y a pas de féminisme. Il y en a le minimum, quoi. Faut rester à sa place, hein. Parce que les féministes, c'est pas bien vu. Il y avait aussi des préjugés.
Oui, c'est vu comme anti-hommes, mais en fait, ce n'est pas du tout ça.
Voilà. C'est vu comme anti-hommes. Les féministes sont vues comme des grosses matrones. Qui n'ont pas de charme, qui sont mal habillées, qui sont mal baisées, enfin tout ça, c'était. Peut-être qu'il y a quand même un peu d'amélioration. Bon, il y a surtout de l'amélioration depuis qu'une femme politique, comme Ségolène Royal, s'est quand même présentée comme plus ou moins féministe. Tout en disant jamais vraiment, mais quand même. Quand en plus c'est une belle femme, et que pour un peu elle allait nous faire passer parmi les premiers pays à avoir une femme présidente de la République, il y a eu un petit regain de, quand même, on pouvait quand même un peu plus parler de féminisme. Mais quand même, n'oubliez pas que c'est un pays latin. Et puis c'est un petit pays. Je veux dire qu'ici, le monde de l'art est petit, enfin, en taille, je veux dire. Si vous vous exprimez encore en tant, si vous faites encore bande à part en tant que féministe, alors vous êtes complètement éloigné.
Et parce que le masculin, c'est le général, le féminin, c'est différent, et si on s'aligne...
Si vous faites encore une bande à part, vous n'êtes plus du tout dans rien.
Oui.
Tandis qu'en Amérique, ne serait-ce qu'à New York, tout ça est beaucoup plus vaste et beaucoup plus disséminé. Vous n'êtes pas dans un petit monde de l'art comme ça, qui se résume à quelques galeries et deux musées, c'est beaucoup plus vaste. Et puis le mouvement féministe en Amérique a toujours été beaucoup plus fort.
Aligre FM 93.1. Téléphone 01 40 24 29 29.
Oui, ben justement, Aline Dallier, elle donnait un cours sur la place des femmes dans l'histoire de l'art à Saint-Denis au début des années 80. Et donc, donc Thérèse Ampjonas a été invitée, Aline Dallier a invité des artistes à présenter leur travail auprès des étudiants. Donc, elle peut en parler.
Bon, je me permets de lire ce que j'ai devant les yeux, puisque c'est un document que j'ai gardé, que j'ai retrouvé. C'était donc c'est un document qui est tapé à la machine, sur calque, et qui donne le titre de l'UV « Histoire de l'art des femmes », enseignante Aline Dallier, année universitaire 80-82, premier semestre, Université Paris 8, Saint-Denis. Salle E354. Cette UV traitera de l'histoire des femmes anciennes et contemporaines selon trois approches. Une approche historique, une approche sociologique et une approche esthétique. Donc, sur le document, elle écrit à la main, je vous dis, en deux couleurs, vert et bleu. « Chère Thérèse, voulez-vous venir simplement participer ? » Ou mieux encore, si vous le souhaitez, à une performance, si oui, téléphonez-moi dès que possible pour que j'établisse un programme. Ce cours durera qu'un seul semestre, elle souligne. J'ai obtenu quelques heures complémentaires seulement, je n'ai pas de poste. En conséquence, je ne dispose d'aucun crédit pour mes invités, mais je pense que c'est important tout de même que vous veniez, cela risque de se développer. Elle me met une chose en aparté, désolée, mais je n'étais pas à votre performance, à vos deux performances récentes. Et quelques jours plus tard, elle me met un autre message. Chère Thérèse, un mot en vitesse, si vous avez envie de venir faire une performance dans mon UV, je vous signale les dates disponibles. Jeudi 15 janvier 82, jeudi 21 janvier 82, 16-19h. Après quoi, ce sera fini. On ne m'a accordé que 12 UV cette année, qui se termine fin janvier. Ce sera peut-être reconduit l'année prochaine, mais qui sait. Donc, prière de me prévenir dès que possible pour ces deux dates, soit par lettre, soit par téléphone. Et elle ajoute, si c'est par lettre, ce que je préfère, car c'est plus précis, il reste une trace, dites-moi en gros ce que vous comptez faire pour que je prépare un peu mes étudiants à votre venue. Merci d'avance, mes bonnes amitiés. Hélas, elle met un astérix. Votre venue ne peut pas être rémunérée. Il faut que ça représente un intérêt. Pour l'instant, l'intérêt à long terme, on ne sait pas ce qu'ils en disent à l'université. Pour ce qui me concerne, j'aimerais bien vous voir dans une nouvelle performance et les étudiants aussi. Voilà. Alors, je pourrais évoquer ce que je lui ai répondu, que j'allais donc faire une performance. Qui est une occupation du territoire, un traçage, un marquage, un mouvement de transfert vestimentaire, et je note la performance étant le lieu d'un lieu, l'espace de mon espace-temps, et je dis, je termine, c'est un brouillon que je suis en train de lire, que je lui avais envoyé, je vous enverrai un schéma définitif dans quelques jours, à ce temps, comme je veux l'absorber, au compte-goutte. Voilà, en fin de compte, en gros, la lettre que je lui ai dit, que je lui ai envoyée et qui était la réponse à cette demande que j'ai donc réalisée le 14 janvier 82. Voilà.
Merci. Et donc, est-ce qu'on passe le micro à Arnaud pour qu'il présente l'exposition ? On va bouger le micro. À vous, Arnaud.
Alors donc, l'exposition, puisque là il s'agit vraiment d'aujourd'hui, puisqu'on a fait quand même beaucoup d'allers-retours dans le temps jusqu'à présent, et je pense que l'exposition, elle a vraiment quelque chose à dire aujourd'hui de tout cet engagement, puisqu'il s'agit quand même essentiellement d'un engagement. Enfin, moi j'ai appelé ça une aventure, mais c'est aussi une façon dont je le vis. À travers les artistes qui sont présentes et pour lesquels il y a eu, disons, un gros travail de fait où chacune des artistes sollicitées, donc d'une façon ou d'une autre, a eu un rapport avec Aline Dallier, soit direct, soit de participation, disons, à cet engagement du féminisme. Et donc on a d'une certaine façon une exposition qui présente des artistes appartenant à une certaine génération, donc on pourrait appeler ça une exposition historique, mais je pense que c'est une exposition aussi qui situe un contexte et qui est une sorte de privilège de pouvoir expérimenter de la part des visiteurs un contexte qui fait référence à un certain engagement et à une certaine période, disons, de l'histoire de l'art. Et qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui ? Et voilà, je pense que dans ce sens-là, l'exposition est importante.
Donc il y a une trentaine d'artistes que vous exposez ?
Il y a une petite trentaine d'artistes, oui.
Et à quel numéro de la rue des Beaux-Arts est votre galerie ?
Alors c'est 10, c'est pas le 6, c'est le 10.
Et de quand à quand a lieu l'exposition ?
Alors, l'exposition démarre le 3 mars et elle est prévue, en tout cas dans un premier temps, elle est prévue de s'arrêter le 2 avril.
Est-ce qu'il va y avoir des événements pendant l'exposition ? Alors, vous allez demander à ces dames, après quand même un peu âgées, de faire des performances ?
Alors un peu...
Pardon.
Disons un peu comme l'histoire de l'exposition. L'exposition a elle-même appelé le catalogue parce qu'il y avait une nécessité de la part d'une historienne d'avoir recours à son matériau, donc au texte écrit. Et de même, l'exposition, maintenant qu'elle est là, elle appelle aussi quelque chose qui est de l'ordre du... Comment appeler ça la performance ou le spectacle vivant. Enfin, en tout cas, de quelque chose qui existe dans l'instant. Donc oui. Mais bon, ça reste encore à définir d'une façon plus concrète. Mais il y aura en tout cas des choses, oui.
Et donc vous sortez un superbe catalogue pour l'exposition.
Je suis impressionné moi-même par le résultat.
Diana, si vous voulez conclure.
Pour cette exposition, nous avons réuni presque 30 artistes. Donc, comme j'ai dit au début, des personnes qui étaient proches d'Aline, sur lesquelles Aline a travaillé. Donc, il y aura plusieurs œuvres qui témoignent du vécu du féminin et de l'expérience de la maternité, comme celle de Danielle Blanchelande, Liliane Camier, Christiane de Casteras, Mulvia Maglione. Marie-Rose Lorté, par exemple, c'est une artiste qui utilise le tricotage et le broderie. Également des œuvres textiles de Hesse, peinture de Bernadette Bourg. Travaille aussi de Thérèse Ambjonas, Christina Martinez, François Janicot, Colette Deblé. Beaucoup d'artistes aussi ont fait un travail autour du corps et la réappropriation du corps féminin. Les dessins de Monique Friedman, Claude Boréalard, des films expérimentaux de Maria Clonaris et Katharina Tomadaki. Il y aura une œuvre vêtements d'Aline Rubière et aussi des performances plutôt critiques. Critique de l'usage social du corps féminin et des institutions et du patriarcat, donc d'Esther Ferrer, Orlan, Léa Lublin, Charlotte Calmy, Dorothy Seltz et Neil Yater. Il y aura également des œuvres qui n'ont pas forcément de lien avec le féminisme, donc des œuvres photographiques de Sarah Holt, Nancy Wilson-Padgett, peinture d'Aline Gagnère, Monique Kissel, Vera Molnar, Françoise Elliott, donc qui était également une fondatrice d'un groupe de plasticiennes à Paris. Et puis, dans le catalogue, il y aura un entretien avec Tania Moreau, donc une amie de longue date d'Aline Dallier. Donc, également pour le catalogue d'exposition, nous avons demandé à des personnes qui ont connu Aline, des personnes qui ont connu Aline, des personnes qui ont été ses collègues à l'Université Paris 8, donc Dominique Berthet, Daniel Danettis, Françoise Py, Jean-Clarence Lambert, et d'autres historiennes d'art, Marie-Jo Bonnet, Fabien Dumont, et puis des personnes qui étaient ses amies, Mathilde Ferrer, Gilbert Lascaux, Christine de Buzon, et aussi une historienne d'art américaine, Gloria Orenstein, qu'elle connaissait bien dans les années 70, donc des échanges entre New York et Paris. Et puis nous avons demandé aussi à des jeunes chercheurs et chercheuses qui consultent toujours ses écrits aujourd'hui, donc Anouk Chambard qui est avec nous aujourd'hui, aussi Zélia Bajaj, Vincent Angelbert et Franny Tachon. Donc je pense que c'était essentiel de montrer que le travail d'Aline Dallier et ses écrits sont toujours consultés, c'est toujours d'actualité. Et donc avec le renouveau du féminisme dans la société aujourd'hui et particulièrement dans le milieu de l'art, c'est important de rappeler la contribution d'Aline Dallier, de montrer qu'il y a une continuité depuis 40 ans de recherche sur les femmes dans l'art.
Merci. Quelqu'un veut rajouter quelque chose?
Alors, moi, si je voulais exprimer encore, c'est ma gratitude vis-à-vis de cette femme, parce que de toute façon, on pouvait lui dire beaucoup de choses sur notre vie de femme et d'artiste. Elle était à l'écoute et surtout, elle avait souvent les mots pour le dire et pour nous aider à nous, elle nous poussait et elle osait nous dire des choses qui nous permettaient d'être encore plus actives dans notre travail, même si c'était compliqué. Voilà, je pense que c'est avec beaucoup de, je vais pas dire une grande émotion, bien que c'est une femme que j'aimais énormément, que je pense que cet ensemble de femmes autour de Diana qui nous a mis donc en relation, et grâce aussi à la galerie, je pense que ça va être un moment fort et que on va faire en sorte que le job soit fait et que on puisse faire parler des femmes, celles qui sont encore là et celles qui sont plus loin. Voilà.
Bon, ben merci.
Merci à vous pour l'invitation.
Revenez quand vous voulez.